en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je dois dire que je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous pour cette session. Merci, cher Michel Pébreau, de m'avoir offert l'occasion d'intervenir aujourd'hui devant votre prestigieuse Académie des sciences morales et politiques. L'Académie, je suis revenue au basique, même si j'étais déjà venue ici plusieurs fois, s'intéresse à l'humain, à son fonctionnement, à son étude. Et cette connaissance permet, comme vous le précisez sur votre site, de trouver les formes d'organisation politique les plus favorables au bien public et à l'épanouissement de l'individu. Vous êtes donc aux premières loges pour analyser, mais aussi anticiper, les évolutions de notre société et comprendre les raisons de ces transformations. Je crois que nous avons aujourd'hui, nous sommes en face d'une lame de fond extrêmement forte, dynamique réelle pour l'entrepreneuriat. Alors elle n'est pas née ici, elle est plutôt née aux États-Unis et j'y reviendrai, mais elle a aujourd'hui effectivement non seulement atteint la France, mais je crois que nous sommes effectivement, et peut-être qu'on le sous-estime, nous sommes aujourd'hui un pays qui est le terreau de beaucoup de nombreux entrepreneurs, de tous les âges, de toutes les générations. Ce n'est pas un phénomène de jeunes, c'est un phénomène de toutes les générations et qui bouge effectivement significativement les choses. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début des années 2000, je vais citer, un peu comme le fait Thomas Friedman, une année spécifique, une année américaine, 2007. 2007 est lancé l'iPhone. Facebook, cette année-là, devient global. Twitter devient une entreprise pleinement américaine et là aussi globale aux États-Unis. Google achète YouTube. IBM lance Watson. Nous avons Airbnb qui démarre quelque part, pas dans un garage mais presque. Nous avons aussi le développement des shale gas, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire de l'énergie moins chère qui va donner le poumon d'oxygène aux États-Unis. Et puis c'est la première année aussi où les textos, les data, tout ce qui est donné devient plus importante sur les réseaux télécoms que la voix. C'est-à-dire ce qu'on avait inventé pour communiquer d'une personne à une autre, eh bien uniquement par la voix, se transforme par des tas de choses très différentes. Alors, toute ma liste est très américaine. Et effectivement, si je cherchais à faire le parallèle français, j'aurais un tout petit peu de mal. Ce qu'on appelle les GAFA n'ont pas eu leur équivalent français ou même européen. Et pourtant, cette année 2007 qui montre finalement une espèce d'acmé par rapport à la dizaine d'années qui a précédé aux États-Unis, on l'a un peu oublié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise de 2008. Et la crise de 2008 a effectivement un peu, je dirais, gâché la fête, mais n'a rien changé à ces tendances de fond. Dans les générations jeunes, qui peut imaginer qu'on a pu vivre sans smartphone ? Qui pourrait imaginer aujourd'hui qu'on n'échangeait pas des SMS 40 fois par jour ? Donc, nous avons une transformation très profonde qui a atteint la France de manière un peu étrange qu'il y a, je dirais, 5 ou 6 ans. Alors, il est bien sûr très difficile de mettre une butte témoin et de dire ça a commencé telle année, mais je crois qu'en France, nous sommes aujourd'hui dans un changement très profond sur l'ensemble de ces sujets. Alors, les raisons en sont très multiples. Bien évidemment, l'envie individuelle d'avoir un rôle dans le monde qui nous entoure, des succès internationaux et en particulier américains qui ont inspiré, l'avènement aussi, on peut le dire, d'une société de l'immédiateté, de l'accès où chaque besoin doit trouver une solution pour que la frustration ne soit pas là. En tout cas, nous sommes aujourd'hui en France dans une évolution extrêmement forte. Et alors, on peut le constater de multiples façons. D'abord, en regardant le nombre de jeunes diplômés qui sortent des écoles les plus prestigieuses et qui veulent absolument pas, comme on le faisait il y a 30 ans, faire de la politique ou de la haute fonction publique, qui veulent pas, comme il y a 10 ans, rejoindre une grande entreprise, mais qui disent « moi, je veux devenir entrepreneur ». Et quand on les écoute, moi je veux devenir entrepreneur, ça se marie à je veux rejoindre un entrepreneur dans une aventure entrepreneuriale, ou bien j'y vais directement, ou bien j'essaye et puis ça marche pas, mais je recommence, je me relève et je redémarre. Donc une relation avec le monde de l'entreprise qui a profondément changé et dont je pense on sous-estime encore les effets. Deuxième phénomène, les salariés des grands groupes souhaitent aussi quitter finalement ce qui était, non pas leur confort, mais des carrières peut-être plus écrites pour tenter la même aventure entrepreneuriale. Et enfin, on voit ce phénomène-là, je dirais même, dans la haute fonction publique, chez les fonctionnaires. Je voyais récemment une personne qui a fait 8 ans de Banque de France et qui a lancé avec 2 collègues sa start-up. Donc on est vraiment dans un phénomène qui touche tout le monde, et j'y reviens, qui touche toutes les générations. Je vois des créateurs d'entreprises de tous les âges, y compris 75 ans, c'est un âge pour tout redémarrer. Alors, je crois que, et je voudrais dire que ce n'est pas seulement un facteur de croissance pour notre économie, même si ça l'est, on y reviendra, c'est aussi un souffle pour notre société tout entière. Et c'est, je crois, un formidable élan de positivisme, dans le sens où, dans un système qui était jusqu'à présent extrêmement déterminé par le niveau des études faites, par la capacité qu'on avait eue d'avoir tel ou tel Marocain et qui vous marquait à vie, dans les espoirs que vous pouviez avoir de réussir, eh bien, aujourd'hui, l'innovation, les entreprises innovantes, c'est une façon pour des tas de gens qui n'ont pas eu forcément une première chance de gagner une deuxième chance de manière très différente. Et je crois que d'ailleurs, dans cette envie d'innover, elle atteint un peu toutes les structures de la société. Et je pense que l'élection de notre dernier président est un peu le signe aussi de l'envie collective de changer des choses et de faire différemment. Et j'étais d'ailleurs très frappé que pendant sa campagne, quelque part, il y avait beaucoup de ce qu'on peut retrouver dans le phénomène d'une start-up. Comment, vu cette émission de télévision, où il motive ses troupes, les faire travailler jour et nuit, avec ce genre de choses, assez loin des relations, je dirais, classiques dans le monde politique. Donc, je crois que c'est un grand honneur, j'en reviens, pour moi, d'en parler avec vous aujourd'hui, et je tenais aussi à vous remercier de cette invitation. Alors, en mars 2013, le président installe la commission Innovation 2030 avec pour mission de faire des choix stratégiques. Quelles sont les innovations que la France ne doit pas rater? Quels sont les secteurs où on doit être présent d'ici 2030? Alors, vous allez me dire, ça, c'est vraiment une fonction stratégique d'un gouvernement. Bah, c'est très difficile pour un gouvernement de faire ce genre de choix parce que, par définition, vous avez tous les lobbies, tous les secteurs, qu'ils soient industriels, commerciaux, des services, etc., qui vont venir expliquer que l'industrie du bois, c'est absolument indispensable, que ceci... Donc, proposer des choix, faire des choix, c'est parfois plus simple pour des gens qui, je dirais, sont non alignés. On nous a demandé également... quelque part, fournir une sorte de boîte à outils de comment innover plus vite et comment innover mieux en France et comment faire pour faire grossir toutes ces petites entreprises qui existent, mais qui parfois n'arrivent pas à grandir. Alors elles n'arrivent pas à grandir parce qu'elles ne trouvent pas les financements, ou elles n'arrivent pas à grandir parce qu'elles sont mangées avant. On est dans un aquarium où les gros poissons mangent souvent les petits. Alors, pourquoi j'en ai été nommée présidente? Je pense tout simplement parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, l'innovation est une passion pour moi, que j'applique quotidiennement dans la société dans laquelle je suis. Alors, pourquoi l'innovation aussi? Je pense qu'il faudrait, que j'arrive à dire que, clairement, que il ne s'agit pas d'innover pour innover. Innover pour innover, ça ne sert à rien. On a besoin d'innover pour 2 raisons essentielles en France, et comme dans tous les pays d'ailleurs. D'une part, l'innovation, c'est la condition nécessaire pour stimuler la croissance, restaurer notre commerce extérieur, en somme, créer des richesses qui permettent de générer des emplois et de préserver notre modèle social. Mais c'est aussi essentiel pour améliorer la qualité de vie au quotidien de nos concitoyens. C'est donc un enjeu qui n'est pas seulement macroéconomique ou propre à l'équilibre de nos comptes publics. Innover, c'est un impératif très concret pour le bien-être de nos concitoyens. On s'est donc attaché, On était 20 personnes, et je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui, de gens très différents, et des passés, mais avec comme passion commune l'innovation. On s'est attaché à l'innovation concrète. Pas l'innovation théorique, l'innovation concrète, et qui donne des choses concrètes. Donc, innovation in concreto, c'est de nouveaux produits, bien sûr, mais aussi de nouveaux services, des nouveaux usages, de nouveaux comportements, qui prennent en compte les tendances de fond, les aspirations fortes de notre société. Alors d'abord, il y a un premier biais très français. Quand on parle d'innovation, on entend souvent en France, on traduit dans sa tête, innovation technologique. Innovation technologique, on traduit par laboratoire, et donc recherche et développement. C'est juste, mais c'est restrictif. Il y a beaucoup d'innovations qui ne passeront jamais par un laboratoire et qui ne viennent pas de la R&D. Donc nous avons voulu aller plus loin et considérer toutes les innovations, y compris d'ailleurs les innovations sociologiques, sociétales, et elles sont nombreuses. Alors, notre démarche s'est fondée sur deux axes. Je suis ingénieur, donc on retrouve les deux axes. On est parti des besoins de la population mondiale telle que nous pouvons les anticiper aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, 2030, la population mondiale, quels seront les vrais besoins? En fait, on les connaît bien. Alors, pourquoi partir de ces objectifs? Parce que l'innovation, si on veut qu'elle réussisse, il faut qu'elle ait un marché. Il faut qu'elle corresponde effectivement aux besoins fondamentaux des individus. Il y a la célèbre histoire, vous savez, de l'invention du marché à tisser, industriel, métier à tisser industriel en Grande-Bretagne. Ça a été inventé 7 fois pendant le XVIIIe siècle. 7 fois sans résultat, parce qu'il n'y avait pas de demande. La main-d'œuvre était bon marché, il n'y avait absolument pas besoin de substituer l'un à l'autre. Ça n'a marché qu'effectivement quand il y a eu la pression industrielle pour trouver de la main-d'œuvre. Donc, pas innover pour innover. Les meilleures innovations, elles sont totalement stériles si elles ne rencontrent ni marché, ni client, ni besoin. Alors, quels sont les mouvements de fond qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, on connaît 2030. D'abord, l'allongement de la durée de la vie à l'échelle planétaire. Ensuite, l'urbanisation croissante, en particulier dans les pays du Sud. Phénomène global. L'émergence d'une classe moyenne mondiale. Ça aussi, c'est parfaitement clair. La prise de conscience sur le changement climatique. Ça, là aussi, le changement climatique, on ne connaît pas exactement les conséquences, mais plus personne ne nie le sujet, ou presque. La révolution numérique. Le digital va profondément transformer. Il suffit de voir nos enfants ou nos petits-enfants pour s'en convaincre. Et puis, les tensions grandissantes, qui vont et qui viennent, mais qui sont aussi grandissantes, assurément, sur l'eau, l'énergie, la nourriture, les matières premières. Ça, ce sont des choses sur lesquelles, en fait, on sait qu'on y va. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas 2030, c'est peut-être 2035, c'est peut-être 2025. En tout cas, c'est clair que c'est l'horizon dans lequel nous sommes. Une deuxième tendance très profonde est aussi l'évolution des comportements de consommation. Il y a un sondage qui est un peu effrayant parfois, qui est très intéressant, qui s'est fait tous les 2 ans dans une centaine de pays dans le monde. Et une des questions demande « qu'est-ce que c'est qu'être un bon citoyen ?» Et vous avez 2 cases pour répondre. La première case, c'est « un bon citoyen va voter ». La deuxième case, c'est « un bon citoyen recycle ses déchets ». Eh bien, je suis désolé de le dire dans cette académie, la deuxième réponse va grandissante et elle est ultra majoritaire chez les moins de 25 ans. Donc, la conception du rapport à l'environnement est en train de changer complètement. Ce qu'on a appelé la consommation de masse, la masse customization, ce sont des choses qui évoluent. Les gens veulent des choses pour eux-mêmes, adaptées à ce qu'ils veulent et dans un respect croissant de l'environnement. Donc, tout ceci va bouleverser nos économies, va bouleverser nos sociétés. Alors, c'est là-dessus que l'innovation doit s'appuyer pour essayer de se développer. Alors, ce diagnostic établi, on a choisi de cibler des domaines dans lesquels on est déjà bon. C'est-à-dire qu'on s'est dit en France, c'est vrai que c'est un sport national que de s'auto, de s'autocritiquer, mais nous avons une histoire, nous avons une histoire culturelle, nous avons une histoire industrielle, et ces histoires-là, grosso modo, on sent quand même qu'un très bon cuisinier, a priori, c'est quelqu'un qui sait déjà faire la cuisine. Un très bon danseur est allé dans une école de danse. Donc, on est parti de nos atouts. Alors, je ne vais pas vous en faire la liste, parce que je pense que vous les connaissez particulièrement. Mais nous sommes partis de ces atouts, des grands besoins, et nous avons essayé de croiser les deux en écoutant énormément de personnes différentes. On a fait énormément d'auditions, comme vous le faites, en écoutant des chefs d'entreprise innovantes, bien sûr, des scientifiques, des chercheurs, des économistes, des sociologues, des philosophes, des représentants des organisations professionnelles, syndicales, patronales. Nous avons essayé de comprendre véritablement l'écosystème dans lequel nous étions. On a écouté beaucoup de jeunes aussi, ayant des trajectoires différentes. Et puis, on a essayé de s'ouvrir beaucoup à l'international, savoir ce qui se faisait ailleurs. Et on a constaté, à notre grande surprise, peut-être, que tous les États, ou presque dans le monde, ont des politiques aujourd'hui d'innovation. Vous allez me dire, pas la Corée du Nord, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne la plupart des pays, un pays par exemple qui n'est pas réputé pour son dirigisme étatique, la Grande-Bretagne a une politique d'innovation avec 8 grands sujets stratégiques sur lesquels qu'ils ne doivent pas rater. Alors nous avons à cette étape, après beaucoup de travail en France, à l'étranger, nous avons préconisé d'instaurer un principe et de retenir 7 ambitions stratégiques. Et enfin d'appliquer une méthode. Notre idée était de ne pas faire un rapport qui irait caler les armoires bancales, mais faire quelque chose qui soit effectivement très pratique. Au passage, je souligne que la Commission n'a pas coûté 1 euro aux contribuables français et qu'elle travaille sur la base de l'envie de servir depuis maintenant 4 ans, et ce totalement gratuitement bien sûr. Alors, nous, le principe, c'est le principe d'innovation. Principe d'innovation que nous avons voulu poser en complémentarité du principe de précaution, qui est inscrit, comme vous le savez, dans notre Constitution. Le principe de précaution a une fonction de protection qui est aujourd'hui symboliquement très importante pour notre société, et on a senti effectivement la façon dont les uns et les autres y étaient attachés. Mais il ne doit pas constituer un obstacle à l'expérimentation, à l'innovation et à la prise de risque. Faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant est par définition plus risqué que de refaire ce que l'on fait depuis des générations. Donc le principe d'innovation que nous avons souhaité mettre en œuvre, pour nous, se traduit à tous les niveaux. À l'école, par l'éducation à la prise de risque, par l'éducation à l'échec. L'échec fait partie de la vie. Dans les laboratoires, dans les entreprises, par le droit à l'expérimentation, au niveau du Parlement, de l'administration, par la recherche constante de procédures simplifiées, de normes harmonisées qui encadrent, mais n'entravent pas. Et au niveau des mentalités, enfin, et j'y reviens, par une autre vision de l'échec, échec qui ne stigmatise pas un projet ou une personne, mais pave le chemin de la réussite. Après la remise de notre rapport au président de la République, qu'il a accepté en l'état, l'Office parlementaire d'évaluation de choix scientifiques et technologiques a organisé une journée d'audition à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de définir l'essence de ce principe et de quelle manière il pourrait être accepté. Nous avons eu le soutien de beaucoup de parlementaires. Nous pensons que ce principe est une brique essentielle pour favoriser l'innovation et nous pensons qu'entre principe de précaution et principe d'innovation, il y a une sorte de yin et yang, de blanc et noir, qui permet effectivement une balance, plus moins, la physicienne revient, qui permet effectivement de construire quelque chose. Alors, ça ne s'est pas développé pour des raisons, je dirais, exclusivement politiques, puisque toute révision de la Constitution est un sujet complexe, mais j'espère que la balle sera reprise. Nous avons également proposé au gouvernement 7 ambitions stratégiques que la France ne doit pas rater pour 2030, et qui devrait mobiliser les efforts publics et les efforts privés, si ceux-ci sont au rendez-vous, pour prendre une longueur d'avance sur ses concurrents dans le jeu de l'économie mondiale. Alors, ces 7 ambitions, vous les avez citées, Monsieur le Président, le recyclage des matières, le stockage de l'énergie, la valorisation des richesses marines, avec bien sûr tout ce qui est dans l'eau, en particulier les métaux, le dessalement de l'eau de mer, les protéines végétales, la chimie du végétal, la médecine individualisée, c'est-à-dire ne plus soigner les gens pour une maladie générique, mais pour ce qu'ils sont eux-mêmes, la silver economy, l'innovation au service de la longévité. Nous allons être pratiquement 1 milliard de gens de plus de 60 ans dans les 10 ans qui viennent dans le monde, et la valorisation de ce que je pourrais appeler des données massives et ouvertes, c'est-à-dire les smart data, comment être intelligent avec les données et comment se protéger aussi des utilisations malignes de ces sujets. Donc, l'idée, c'était de mobiliser les leviers de l'action publique, et en particulier un qu'on a un tout petit peu oublié, qui est la commande publique. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros par an. C'est donc énorme. Et si vous en souvenez, les grands programmes du général de Gaulle, qui ont été ensuite Georges Pompidou et qui ont été déclinés ensuite par leurs successeurs, se sont beaucoup appuyés sur la commande publique. La commande publique, elle est un peu fâchée avec l'innovation, aujourd'hui. Alors fâchée, je dirais dans certains secteurs, très fâchée. Les acheteurs publics ont été mis dans des gangs, à la fois en termes de droit pénal, ou finalement acheter innovant et prendre un risque de carrière très significatif. Donc on achète comme achètent les autres, on n'achète pas neuf. Et je dirais qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement durs dans ce domaine. Je parle de la santé, par exemple, où dans le monde des hôpitaux, acheter innovant, c'est pas possible. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut acheter toujours quelque chose qui est un concurrent. Quand vous êtes dans une innovation, par définition, vous n'avez pas de concurrent. Donc, vous êtes excommunié, quelque part, dès le départ. Alors, la méthode. On s'est dit, mais finalement, c'est très compliqué, l'État français. Les leviers... Alors, on nous a alloué une très grosse somme qui vient du Commissariat général d'investissement, qui avait constaté que, finalement, il ne faisait pas beaucoup dans l'innovation. La réelle innovation. Donc, ils nous ont dit, mais comment faire ? Comment sélectionner ? Comment utiliser ? Comment répartir ? Eh bien, c'est peut-être l'influence, je ne sais pas, de nos jeunes années, ou de plus loin des jésuites et de la Chine. Ben, on s'est dit que le plus simple, c'était de faire un concours. De faire des concours. Parce que finalement, le concours, c'est la méthode la plus objective. Donc, on a ouvert un concours par innovation stratégique, avec trois niveaux. Une où, des start-up qui ont démarré, mais qui ne sont pas très grosses, l'État subventionne de 200 000 euros. Deuxième stade, vous êtes déjà beaucoup plus avancé, 2 millions d'euros. Troisième stade, 20 millions d'euros. Donc ça, nous avons, c'était aussi un élément un petit peu compliqué, parce que nous sommes une commission donc, qui vient de la société civile. Comment s'insérer dans le dispositif administratif ? On a intégré dans la commission tous les grands du système administratif français qui avaient leur mot à dire. Président de la BPI, président du CGI, commissaire général à l'investissement. Et donc, quand ils ont été convaincus qu'on n'allait pas manger les plates-bandes de personnes, tout s'est très bien passé. Et on fonctionne aujourd'hui, depuis 4 ans, effectivement, de manière très harmonieuse avec les uns et avec les autres. Je dirais presque parfois, nous sommes dans des solutions d'arbitrage entre différentes administrations qui ont quelques difficultés, parfois, à considérer que d'autres peuvent avoir un peu raison. Donc, notre concours est très rapide, notre concours très interactif. Alors, on a été copié, ça c'est pour moi d'ailleurs la meilleure des reconnaissances. Nous avons été copiés par deux types de concours. L'ADEME, qui a copié-collé, mais vraiment qui fait exactement le même concours dans le domaine strictement environnemental. Et puis le concours du numérique, pareil. Ils ont exactement copié-collé ce qu'on faisait. Donc je trouve ça excellent. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Après 4 ans de travail. Et alors d'abord, nous avons, sur le principe de précaution, je n'y reviens pas, sur la commande publique innovante, c'est parti. Nous avons réussi à faire accepter dans les textes de loi une priorité certes modeste, 5%, mais c'est 5%, qui est donné à l'achat public de solutions innovantes issues des TPE et des PME. Notre méthodologie, je disais celle du concours, est copiée, donc ça je pense que c'est, et notre concours. Alors, notre concours, on a eu jusqu'aujourd'hui ce qu'on appelle pour sur la phase 1, 200 000 euros. On a sélectionné 110 projets donc, qui ont été allocataires, et je dois dire qu'on a une entreprise depuis 4 ans qui a déposé le bilan. Donc on ne s'est pas trop trompé. 36 projets en phase 2, 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous avons qualifié 12 projets en phase 3. Alors là, il s'agit de 20 millions d'euros. Donc on a tout un système qu'on a organisé avec la BPI, la Banque publique d'investissement, sur instruction approfondie, avant de les allouer. Donc, ça c'était la première édition. Nous sommes à la deuxième édition du concours et nous sommes 72 lauréats en phase 1, 30 en phase 2. Alors, qui sont ces entreprises? Elles peuvent être françaises, elles peuvent ne pas être françaises. Alors ça, je dois dire que ça a été une grosse bataille. Comment elles peuvent ne pas être françaises? La condition mise, c'est qu'elles investissent et qu'elles développent de l'emploi en France si elles ne sont pas françaises. Ça paraît de soi quand on parle d'argent public. Alors, nous avons une majorité d'entreprises françaises, mais nous avons des entreprises non françaises. La BPI a fait une analyse il y a un an qui a montré que nous avions été le ressort de levée de fonds cumulée de plus de 100 millions d'euros. Et on a permis une augmentation très significative du chiffre d'affaires des entreprises lauréates et de leurs embauches. C'est effectivement une récompense très visible et qui leur permet d'être mieux reconnus par les systèmes existants, surtout au niveau du privé. Donc, rapidité, interaction. Moi, je peux vous dire que mon expérience, pour avoir fait partie, pas de tous les jurys, mais d'un centre de jurys, c'est qu'en France, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a des formidables innovateurs. La Banque publique d'investissement a mis en place maintenant un système avec des fonds privés qui a permis de démultiplier l'effort. Et je pense que là-dessus aussi, nous serons extrêmement forts. Alors, vous m'aviez posé, Monsieur le Président, une autre question. Je vais tenir le temps qui m'est imparti, donc je ne voudrais pas être trop longue. Et qui est un point essentiel, parce que je crois que c'est aujourd'hui un point crucial chez beaucoup de Français. Est-ce que l'innovation apporte de la croissance ou est-ce que l'innovation détruit des emplois? Alors vous allez me dire, ce n'est pas la même question, mais on entend perpétuellement cette espèce de rebondissement entre, oui, l'innovation, ça fait de la croissance, mais l'innovation détruit aussi de l'emploi. J'ai envie de vous dire, les études, je n'ai pas les études françaises, j'en ai pas trouvé. Peut-être que c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler un peu plus. Mais il y a des études américaines qui sont extrêmement intéressantes, qui montrent d'ailleurs que peut-être que le président Trump se trompe sur certains sujets de cible. Il est clair qu'on a confondu énormément plusieurs sujets à la fois. On a confondu innovation, qui est un phénomène effectivement extrêmement fort aujourd'hui. On a confondu avec globalisation. Et on a confondu avec gain de productivité. Les études américaines montrent que les pertes d'emplois, 85% des jobs qui ont été perdus aux États-Unis l'ont été par la productivité. Et non pas par la délocalisation au Mexique ou ailleurs. Je crois que ça existe peut-être en France, ça existe peut-être en Europe, mais je ne l'ai pas trouvé. Je serais très heureuse de le savoir. Mais j'ai l'intuition que nous sommes dans une situation un peu équivalente. Beaucoup des emplois perdus le sont plus par la productivité que par l'innovation ou par la globalisation. Il est clair également que nous avons aujourd'hui une situation qui... alors quand je dis peut-être que le président Trump se trompe, en tout cas, je crois que l'effet de la perte d'emploi, le fait effectivement de cette angoisse très forte sur la globalisation, sur les gains de productivité et aussi un petit peu sur l'innovation, ont créé des réactions collectives dont on a vu d'ailleurs l'impact, le Brexit, l'élection du président Trump et puis l'émergence de beaucoup de démagogues à travers le monde. Quand je disais peut-être que le président Trump se trompe, je pense par exemple à ces tweets qui ont eu un certain effet sur les constructeurs automobiles qui avaient envie de faire de nouvelles installations au Mexique, en disant bah, faut les empêcher de les faire au Mexique, il faut qu'ils les fassent aux États-Unis. Eh bien, je pense que c'est la réaction de président Trump en disant « scrogneux, ils vont rester aux États-Unis, sinon vous allez voir ce qui va se passer ». Je crains que ça ne soit une réaction un peu décalée par rapport à la situation d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les entreprises en question qui vont effectivement faire leurs usines aux États-Unis, elles vont les faire avec beaucoup plus de robots. Donc il y aura certainement moins d'emplois au Mexique, mais je ne suis pas sûre qu'il y aura plus d'emplois aux États-Unis de col bleu tels qu'on voudrait les recréer comme ils étaient dans les années 80. Donc je crois que les solutions simples pour refaire des emplois pour la majorité de personnes, moi je n'ai pas de solution idéale et je voudrais conclure peut-être par ça. Quand vous regardez les problématiques de... on a vu pendant la campagne présidentielle en France, faut-il taxer les robots ? Je crois que d'abord on n'arrête pas l'évolution des progrès, mais en même temps les gains de productivité sont un sujet qui change. Si on remplace les hommes par des robots dans les industries automobiles, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on va créer des postes d'ingénieurs supplémentaires, parce qu'il faut s'occuper des robots, il faut les concevoir, donc des cols blancs, mais pas beaucoup de cols bleus. Donc on a une espèce d'évolution majeure de la société. Et c'est là où je pense l'innovation, elle doit devenir sociale et sociétale beaucoup plus. C'est-à-dire, je crois que nous avons un besoin, je reviens au livre de Guylaine tel qu'il a été présenté, on en revient, je pense, à un besoin d'immédiate convivence, c'est ça ? Je crois qu'on va avoir besoin de plus en plus de services, de plus en plus de gens proches. Et donc, avoir une société d'un côté qui va innover, qui va être infiniment plus efficace, et puis de l'autre, effectivement, une société qui va plus entourer. Donc voilà, moi je n'ai pas de vérité absolue sur le sujet. En tout cas, je pense qu'on ne peut absolument pas faire abstraction des immenses forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui.
Thank you.